Salut tout le monde, au sommaire de cet épisode, nous aurons Fantasmagoria, Splatterhouse, Creep Knight, Branded 13, Pops Ghostly, House of the Dead 2, Fright Night, Castlevania Vampire Kiss et la démo Amiga Second Shore du groupe Andromeda. Bienvenue sur Rétrovision. Bienvenue sur ce premier épisode Formule Classique de la saison 4, avec une émission un peu particulière puisque ce Rétrovision a pour thème la fête de l'Halloween avec son lot de fantômes et de gobelins effrayants mais aussi follement amusants. Comme le veut la tradition, nous commençons avec un jeu d'aventure point and click, le mystérieux Fantasmagoria, édité par Sierra en 1995. Tout droit sorti de l'imagination débordante de Roberta Williams, Fantasmagoria relate les aventures d'une romancière et de son conjoint venus emménager dans leur nouvelle demeure. Un manoir gothique appartenant à Carno Carnovache, un étrange magicien ayant eu une vie plutôt mouvementée. Nous n'en dirons pas plus sur le scénario afin de ne pas dévoiler toutes les intrigues.
Angel.
Fantasmagoria était l'un des premiers softs à être réalisé en utilisant la méthode du fond bleu. On se souvient à la même époque de Under a Killing Moon ou Gabriel Knight 2. Vous devez guider Adrienne à travers les pièces du manoir, mais aussi à l'extérieur de l'île de Nantucket, en Nouvelle-Angleterre, afin de résoudre le mystère de la maison Carnovache. Au cours de son exploration, elle rencontrera quelques personnages secondaires, comme par exemple le grand dadé Sirius et sa maman, ornée d'un superbe bonnet rouge. Ceux ou celles qui avaient acheté le jeu lors de sa sortie doivent se souvenir des 7 CD-ROM sur lesquels tenaient les vidéos. En effet, les DVD n'existaient pas encore et les algorithmes de compression de l'époque n'étaient pas assez évolués. La partie sonore est très soignée. L'ambiance qu'elle dégage renforce le côté angoissant avec de somptueux chants grégoriens. Dans les options, il était possible d'enlever les scènes les plus gore et choquantes en activant le Parental Lock, sans oublier l'icône en forme de crâne qui donne quelques indices lorsque le joueur est bloqué. Malgré ses quelques petits défauts de réalisation technique, Fantasmagoria est une magnifique expérience vidéoludique. Et même 15 ans après, le plaisir de jouer est intact et l'accroche est immédiate tant l'atmosphère générale arrive à nous saisir. On ne pouvait pas faire un épisode spécial horreur, Halloween, Retro Gaming, sans parler de Splatterhouse de Namco. Ce classique parmi les classiques est sorti d'abord sur arcade en 1988, puis sur FM Towns et PC Engine. Vous dirigez Rick, une innocente victime, qui a eu la très mauvaise idée de trouver refuge dans un manoir abandonné avec sa copine Jennifer, ou Jennifer, ça se dit aussi. Avec son masque de hockey, Rick nous fait penser à Jason de Vendredi 13, sauf que Namco n'avait pas obtenu les droits pour une licence officielle, d'où le scénario classique du manoir hanté. Vous progressez difficilement à la manière d'un side-scroller horizontal sur un total de 7 niveaux, avec l'option de choisir son chemin dès le 5e stage. Des fois, on se demande si ce n'est pas plutôt un piège. Certains passages sont bien plus délicats que d'autres. Techniquement, pour 1988, les graphismes sont remarquables. Pas spécialement beaux pour ce type de jeu sanguinolent, mais les décors et les sprites sont fort bien détaillés. Mais surtout, on ressent complètement cette ambiance film d'horreur des années 80, surtout lors du combat contre le boss du niveau 2, clin d'œil au film Poltergeist. Petit bémol tout de même sur la musique et la maniabilité de Rick. Avec une animation molle et simpliste, on dispose seulement de deux types d'attaques, au corps à corps plus les armes. Mais ne serait-ce pas volontaire de la part des concepteurs de vouloir donner une certaine lourdeur au personnage pour justifier ses coups extrêmement puissants? Bien que précurseur dans son genre, Splatterhouse est un grand classique où Namco a apporté un grand soin au graphisme et à son atmosphère toujours aussi glauque même 20 ans après. D'ailleurs, le succès de la borne engendra une trilogie Splatterhouse 2 et 3 avec des conversions sur les plateformes de l'époque, notamment sur Mega Drive. Encore un jeu Sierra, n'ayant rien à voir avec les point and click puisqu'il s'agit d'une simulation de flipper ayant pour thème, vous l'aurez compris, les gnomes, gargouilles, châteaux hantés, zombies et compagnie. 3D Ultra Pinball Crypt Knight est sorti en 1996 sur support CD-ROM. Il fait partie de la famille des 3D Ultra Pinball, comprenant entre autres The Lost Continent et Thrill Ride. Les aires de jeu sont divisées en trois sections. La plus grande est la principale, située généralement en plein milieu, et deux autres plus petites sur chaque côté. L'objectif récurrent, comme dans tous les flippers qui se respectent, est d'enclencher différentes missions, et si possible, de les réaliser avant la fin du compte à rebours. C'est aussi le meilleur moyen de marquer le plus de points. Là où Crypt Knight se différencie des autres machines à boules, c'est au niveau de son gameplay, se permettant pas mal de fantaisie, comme par exemple l'apparition de tout un tas de petits monstres en plein milieu de la table qu'il faudra percuter par l'intermédiaire de la bille d'acier. De plus, il y a une trame scénaristique, l'histoire d'un château volé par le roi des gnomes, avec aussi un combat ultime contre un boss de fin. Crypt Knight est un flipper vraiment sympa, avec une ambiance château hanté qui n'est pas pour nous déplaire. Et si vous devez en choisir un dans la série des 3D Ultra Pinball, on vous recommande surtout celui-ci.
Dans le RER, la banlieue c'est parole, la banlieue c'est morose. Alors, prends-toi en main, c'est ton destin, c'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Institution, immigration, moi je dis non, ce sont des mots que tu refuses en bloc. Oh ça c'est sûr, on ne se soumettra pas à ta vouloir. Ouais.
Branded 13 est un dessin animé interactif à l'humour macabre réalisé par l'équipe de Dragon Slayer et édité par Realisoft en 1995 sur PC, puis en 1996 sur les consoles. Votre mission est de diriger, ou plutôt devrais-je dire, indiquer les directions à Lance, un jeune informaticien, pris au piège dans un immense château alors qu'il était venu réparer un ordinateur appartenant au docteur Neurosis. Il faudra bien entendu éviter tous les pièges disséminés un peu partout dans la demeure et même dans les jardins extérieurs, sans oublier les monstres hideux dont l'ami Fritz, véritable pot de colle aux ordres du docteur Nero Neurosis. Comme dans la plupart des FMV, l'interactivité est très limitée. On se contente des 4 flèches de direction du clavier pour indiquer le chemin à prendre et la barre espace pour effectuer une action. Ceci étant, un effort a été fait pour proposer aux joueurs un peu de variété. Tout d'abord, sachez qu'il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à la fin. Branded 13 comporte aussi 4 sections bien distinctes avec les faits, les 3 secrets, les sorcières jumelles et le combat contre Fritz. Le gameplay est très rudimentaire. La meilleure façon d'avancer est de connaître les combinaisons de mouvements par cœur car aucune indication ne s'affiche sur l'écran. Autant dire que pour finir le jeu et les premiers essais relèvent de l'exploit.
C'est à toi de servir, mais cette fois t'as plus le raquet.
Branded 13 est une expérience amusante, le côté horreur, comique, halloweenien est plutôt bien retranscrit, normal pour un jeu américain me direz-vous, mais la jouabilité risque d'en rebuter plus d'un ou plus d'une, à réserver donc aux mordus des dessins animés interactifs.
Ready for action.
The Rescue of Pops Ghostly est un film américain enregistré sur support VHS, conçu pour la plateforme de jeux de tir Action Max, sorti aux alentours de l'année 1987. Plus un jeu électronique qu'une console à part entière, l'Action Max proposait 5 films aux thèmes très variés. Cela allait des combats aériens à la Top Gun jusqu'à la chasse aux fantômes, comme le proposait Pops Ghostly. Les cercles lumineux qui se superposent à la vidéo doivent peut-être vous rappeler quelque chose. Et oui, la série Capitaine Power et les soldats du futur, diffusée en 1988, sur la 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie, où il fallait tirer sur l'écran avec un jouet en plastique. Eh bien, l'Action Max reprend à peu près le même principe. À chaque fois que vous faites mouche sur les cibles lumineuses, le gyrophare rouge, collé par une ventouse en bas à droite de l'écran, s'allume et les points augmentent. Par contre, si vous visez sur les innocents, le score diminue. Dans cette VHS, vous devrez venir en aide à de gentils fantômes qui vous demanderont de les protéger contre les méchants démons qui se sont incrustés dans leur demeure. Nous aurons l'occasion de voir d'autres films pour l'Action Max lors de prochaines émissions. Fan de George Romero, grand maître incontesté et inventeur des films de zombies avec La Nuit des Morts Vivants, sorti dans les années 60, soyez donc les bienvenus dans la Maison des Morts, deuxième mouture. Les événements du jeu se passent en l'an 2000, soit 2 ans après les événements du premier Househead. Mais cette fois-ci, le cadre est plus agréable. Oubliez le manoir lugubre, Sega vous offre la ville de Venise comme terrain de chasse. Niveau gibier, nous avons toutes sortes de créatures cauchemardesques. On se croirait en plein carnaval, sauf que là, ce ne sont pas des déguisements. Sorti en 1999, ce jeu se joue seul ou avec un équipier. Chacun est armé d'une imitation de pistolet relié à la borne d'arcade. Vous jouez en vue à la première personne et vous devez dézinguer tout ce qui se passe dans votre champ de tir en évitant de tuer les quelques civils qui tentent d'échapper aux monstres. En fonction de la partie du corps zombiesque que vous visez, vous causez plus ou moins de dégâts. La tête est souvent le point le plus sensible, mais pas toujours, notamment pour les boss dont les points vitaux sont plus difficiles à atteindre, même s'ils sont indiqués. Vos munitions sont infinies, et pour recharger, il faut tirer à l'extérieur de l'écran.
It's been a while, hasn't it? My friends from the AMS. It's me, Goldman.
Même si les déplacements des héros sont automatiques, vous aurez à certains endroits du jeu le choix de la direction à prendre, ce qui rallonge la durée de vie si on veut finir l'aventure en ayant fait tous les chemins. D'une difficulté assez élevée à cause d'un nombre de vies restreint, même si on peut en récupérer au cours de la partie, House of the Dead 2 est un bon défouloir qu'il vaut mieux partager à deux. What is it?
Welcome to Fright Night.
Fright Night sur Amiga est tiré d'un film du milieu des années 80 racontant les mésaventures d'un étudiant aux prises avec son nouveau voisin qui n'est autre qu'un vampire. Sorti en 1988, ce jeu vous met dans la peau du méchant, c'est-à-dire du vampire Jerry Dandridge. Vous parcourez votre manoir à la nuit tombée à la recherche des victimes que vous devez alléger de leurs globules rouges. Comme tout vampire qui se respecte, vous ne supportez pas les crucifix et vous devez souvent esquiver ceux que vos futures victimes vous lanceront avant de planter vos crocs dans leur chair. Une fois que notre suceur de sang a bien étanché sa soif, vous passez au niveau suivant. Et dès le deuxième niveau, les choses se compliquent, car vous croiserez des créatures qu'il vaudra mieux éviter de boire le sang si vous voulez rester un mort-vivant en bonne santé. Quand votre énergie est basse, vous pouvez la régénérer en faisant une sieste dans votre cercueil. Et surtout, restez-y jusqu'à la tombée de la nuit où vous aurez droit à un bronzage intégral mortel sous les rayons du soleil. D'une difficulté mal dosée, Fright Night est malgré tout un jeu sympathique sans prétention aucune. On finit cet épisode en beauté avec un excellent jeu de plateforme action dans la famille des Castlevania. Je demande le Vampire Kiss, aussi connu sous le nom d'Akumajo Dracula XX. Comme dans toutes les grandes sagas, il est parfois difficile de se retrouver dans les appellations de certains jeux. Pour faire simple, ce Castlevania est une sorte d'adaptation de la version PC Engine Super CD-ROM Dracula X Shino Hondo. Les sous-titres japonais et américains sont plus compréhensibles puisqu'ils reprennent le terme Dracula X. Vous incarnez Richter, parti à la recherche de sa petite amie Annette et de sa sœur Maria, enfermée dans un donjon situé en haut de la tour du château de Dracula. Mais avant d'atteindre votre but, il vous faudra traverser des niveaux variés, parsemés de pièges et d'ennemis qui ne vous feront aucun cadeau. L'armement est sensiblement le même que son homologue sur NEC, avec le bon vieux fouet et les armes secondaires. Sans oublier l'item Crush, super pratique lors de passages délicats. Monsieur Richter fait des siennes en ce qui concerne sa maniabilité. Il est plus long que Simon Belmont, mais il a l'avantage de sauter plus haut et plus loin, y compris dans les escaliers. Cette petite lenteur obligera un bon nombre d'entre nous à apprendre les niveaux par cœur et à connaître les positions des ennemis et leur manière d'attaquer. Autant le dire tout de suite, n'espérez pas avancer rapidement et n'importe comment. La palette de couleurs de la Super Nintendo est très bien exploitée, les décors sont soignés, arrondis et magnifiquement détaillés. Un vrai régal, ajoutez à cela une bande-son remarquable teintée de rythmes électro et de guitare électrique. Malgré sa banalité, ce Vampire Kiss est un bon épisode, même si on lui reproche une maniabilité nettement inférieure à Super Castlevania 4 sur la même machine. Dommage aussi que l'on ne puisse pas contrôler Maria Renard. Mais une fois le personnage en main, c'est un réel plaisir de parcourir de fond en comble le château mythique du roi des vampires. Avant de passer à la démo Amiga, un petit mot pour vous annoncer qu'Alexei Pajitnov, créateur de Tetris, vient de rejoindre l'association MO5 en tant que membre d'honneur. Il participera également au comité de soutien pour le Musée National des Jeux Vidéo. En effet, M. Pajitnov a manifesté sa préoccupation concernant la disparition croissante des informations sur l'histoire des jeux vidéo. En 1984, il crée Tetris en cherchant à reproduire l'un de ses jeux favoris, le Pantomino. Et ce n'est qu'en 1996 que Mr. Pajitnov a récupéré les droits du jeu et fondé par la même occasion Tetris Company et le site Tetris.com. A noter aussi que l'association MO5 est à la recherche de nouveaux membres afin d'être reconnue d'utilité publique. Rendez-vous sur le site MO5.com pour plus d'informations.